Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Et qu'on est né en fait dans une période extraordinaire finalement, notre génération et la tienne. Et que c'est un challenge mais aussi une chance inouïe d'être né à cette époque où en fait l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète va se jouer dans les 50 ans à venir. Hein. Et que c'est à nous, chacun, de participer au mieux-être, à une transition qui soit porteuse de joie.
Léna Sato est de ces personnes qui ont un parcours franchement atypique et inspirant. Franco-japonaise, elle a eu une adolescence loin des idées que l'on connaît, perdue dans ses pensées, ses questionnements sur le monde, loin des autres, loin des standards et des conformités. Cette différence l'a plongée dans une dépression à l'âge de 14 ans, avant qu'une rencontre, une phrase, change sa vie. Suis ce qui te met en joie. Depuis, elle vit un pied sur terre et un pied dans l'océan, au milieu des dauphins et des baleines qui lui ont redonné le goût de vivre. De cet océan, elle en a tissé une vie, la sienne. Son engagement pour la protection de l'environnement est inspiré par son amie biologiste marine, Abigail Alling, pour qui la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a simplement besoin d'être aimée. Léna nous amène aujourd'hui avec elle, loin dans les profondeurs, au cœur de sa passion pour l'océan et de son goût prononcé pour la vie. Le goût d'une renaissance. Bonjour Léna, on fait cette interview à distance parce que tu vis à Hawaï. Et ça me tenait vraiment à cœur d'échanger avec toi, même si on se rencontre virtuellement. Tu es une apnéiste franco-japonaise. Tu as une vie les pieds sur terre et une vie la tête dans l'eau, au milieu des baleines et des dauphins. Mais pourtant, tu es née à Tokyo et tu as grandi à Paris. Tu as une enfance assez difficile, je crois, et on va commencer par en parler, si tu es d'accord. On va revenir sur ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais quand tu avais 7 ans ?
Alors, c'est drôle que tu aies choisi 7 ans, en fait, finalement, parce que j'ai un souvenir assez marquant de moi, petite fille, dans un magasin Nature et Découverte. Et en fait, je suis face à un livre et j'aimerais que ma mère m'offre ce livre et finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais je ne sais pas si tu as entendu parler de cette petite fille, enfin qui est maintenant une jeune femme de 28 ans, mais qui s'appelle Tipi. C'est une petite fille qui a grandi dans le bush africain. Et donc, dans ce livre d'images, en fait, je voyais cet enfant qui avait à peu près le même âge que moi, un peu plus petite, ado d'éléphant, ado d'autruche, à côté d'un jaguar. Et moi, je regarde ces images et je me dis, en fait, j'ai envie d'être Tipi. Parce que j'avais vraiment cette attirance pour les animaux, je pense, depuis toute petite. J'arrivais pas à poser des mots dessus, mais il y a quelque chose en moi qui a vibré très très fort. Donc c'est l'un de mes souvenirs de mes 7 ans. Sinon, j'étais vraiment d'une nature réservée, timide.
Oui, et tu dis avoir grandi avec ce sentiment de ne pas te sentir chez toi. Pourquoi avoir ce sentiment ?
Oui, ce sentiment de mal de terre. En fait, je pense que j'avais beaucoup de mal à exprimer mes sentiments, mes ressentis, mes émotions. Donc, il y a beaucoup de choses que je refoulais. Et avec le recul, je crois qu'il y avait vraiment le souci du regard extérieur. Mmh. Vraiment le besoin de plaire et finalement d'être aimé. Vraiment le besoin d'être en lien avec l'autre. Mais ce besoin était tel que finalement, je finissais par me construire, en fait. À construire différentes personnalités, mais vraiment essayer de m'accorder à l'autre et finir par m'oublier complètement moi-même.
Est-ce que tu avais le sentiment que tes copains et tes copines aussi se construisaient en fonction du regard des autres, ou que c'était particulièrement toi qui étais dans ce cas-là?
Je pense que oui, à cet âge-là, en fait, c'est la préadolescence. Je pense que vraiment le regard de l'autre devient très important. Donc, je pense que oui, mais je pense que ce besoin était vraiment exacerbé chez moi.
Et à 14 ans, tu tombes en grosse dépression et tu dis finalement que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée et que c'est une chance que ce fût aussi tôt dans ta vie. En quoi une dépression aussi jeune peut devenir une chance ?
Ah mais c'était vraiment, oui, complètement. C'était une chance immense. En fait, je me souviens très bien encore du moment, enfin du jour où la dépression a commencé. J'habitais encore à Paris à ce moment-là, mais on était en vacances à Hawaï dans un espèce d'hôtel paradisiaque. Et donc, enfin à l'extérieur, tout était parfait en fait. Hein, mais tout à coup, j'ai eu le sentiment qu'il y avait ce nuage noir qui est venu se poser au-dessus de ma tête et je savais pas d'où provenait ce nuage. Je me suis dit, bon, bah, ça va passer, je vais aller me coucher, ce sera parti le lendemain. Et en fait, pas du tout. Et pendant tout un mois, j'ai pas arrêté de pleurer. Donc, j'ai passé mes vacances à Hawaï à pleurer dans ma chambre d'hôtel, presque. C'est comme si toutes ces émotions, finalement, qui avaient été refoulées pendant toutes ces années, se déversaient d'un coup. Et je ne savais absolument pas comment gérer ces émotions. Et donc, ça a duré pendant quelques mois. Je ne parvenais plus à aller à l'école et ma mère a eu la très belle inspiration de faire appel à une amie de la famille, qui, je pense, aujourd'hui, on pourrait l'appeler une guide spirituelle, mais voilà, c'était pas très courant.
Cette amie qui t'a dit « suis ce qui te met en joie », c'est ça ?
Voilà, « suis ce qui te met en joie ». Et donc, cette femme est venue vivre avec nous pendant un mois. Et c'était ma première rencontre avec la spiritualité. Jusque-là, enfin, j'avais entendu parler du mot, du développement personnel, mais c'était vraiment pas quelque chose qui... Enfin, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais c'était vraiment pas du tout dans mes sphères. Surtout à 14 ans, mais c'était l'une des premières choses qu'elle m'a dit. Avant de me dire « suis ce qui te met en joie », elle me dit « mais Laïna, en fait, tu n'es pas tes émotions ». Je dis « mais si je ne suis pas mes émotions, qu'est-ce que je suis ?» Et elle m'a sorti « bah, tu es une conscience, et cette conscience est infinie ». Alors, je n'ai absolument pas compris ce qu'elle voulait me dire, mais quelque chose intuitivement s'est reconnu là-dedans, et je me suis sentie en confiance, en fait. Et donc, on a effectué tout un travail pendant un mois, et je me rappelle, au bout d'une semaine, en fait, je retournais à l'école, et c'est comme si... Là, je me suis rendu compte que je me trouvais comme dans une chambre plongée dans l'obscurité et que quelqu'un tout à coup ouvrait la fenêtre et que je découvrais qu'il y avait un monde extérieur en fait.
Cette phrase « suis ce qui te met en joie », qu'est-ce qu'elle a changé en toi ?
Elle a tout changé. En fait, c'est jusqu'à ce que je rencontre cette femme en fait et que elle prononce ces paroles, je me considérais comme une victime. En fait, je vivais vraiment dans la peur. Et d'un sentiment de séparation, vraiment de séparation non seulement avec le monde, mais avec moi-même. Et « suis ce qui te met en joie », en fait, c'est « suis ce qui te met en joie » parce qu'en fait, ce que tu ressens, la joie, ce sentiment, t'indique que tu es aligné sur qui tu es véritablement. Donc, ce sentiment, cette joie est ma boussole depuis ces 14 ans, en fait. C'est comme ma ligne, mon fil rouge, ma ligne directrice.
Et suite à cette rencontre avec cette amie, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver des réponses à tes questions ? Donc ces questions de qui suis-je, pourquoi je suis ici ? Je sais que c'est des questions que tu te posais beaucoup. Qu'est-ce qui t'a aidé, au-delà de cette amie, à te construire ?
L'océan, vraiment. Parce qu'en fait, la joie à ce moment-là, le chemin menait à l'océan. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Tipeee, je me souviens, donc à 14 ans, à 14-15 ans, quand je me projetais dans l'avenir, c'était soit je veux travailler dans une réserve naturelle au Kenya, ou bien je veux être cétologue ou océanographe. Finalement, je suis allée vers la mer, et l'océan m'a vraiment permis de vivre une renaissance. C'était le lieu de ma seconde enfance, et aussi un endroit où, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment eu l'impression de me construire en tant que femme. un espace où me reconnecter à ma féminité et à mon corps.
Mais alors d'où te vient cette passion et cette connexion avec l'océan ? Parce que à Paris, tu n'étais pas tout proche de l'océan. Quel a été le début de cette histoire d'amour avec l'eau ?
Je me sentais toujours bien sous l'eau. Je suis pas une très bonne nageuse, particulièrement, mais depuis petit, j'adorais plonger au fond des piscines, partir à la découverte des récifs. Je crois que depuis petit, j'étais un être plutôt aquatique.
Mais tu allais souvent à l'océan ?
Pendant les vacances, ouais. Mais suite à ces dépressions, en fait, on a quitté Paris pour déménager à Hawaï. C'est à ce moment-là que ce lien à l'océan s'est vraiment approfondi. Parce que c'est là que j'ai découvert l'apnée, la pratique de l'apnée, une communauté d'apnéistes. Et c'est là que j'ai eu mes premières rencontres avec des dauphins sauvages, avec les baleines. Et les cétacés ont vraiment été des enseignants extraordinaires.
Donc ta première plongée s'est faite à Hawaï. Tu avais quel âge ?
Avec les dauphins, je pense que je devais avoir 12-13 ans. Mais c'était pas ma première rencontre avec les dauphins qui était le plus marquant. En fait, c'était ma rencontre avec une baleine à bosse, en fait, un baleineau. Je devais avoir 16 ans. Je me souviens du premier contact avec le regard, l'œil de la baleine. Ce baleineau devait se trouver à 2-3 mètres de moi. Enfin, si j'avais tendu la main, j'aurais pu l'effleurer, le toucher. Ce qui m'a profondément marquée, en fait, c'est la confiance presque totale entre elle et moi. Je dis elle parce que c'était une femelle. Et je me dis, mais c'est incroyable de pouvoir vivre ça avec un animal sauvage. Et que tout à coup, je me sentais totalement acceptée pour qui j'étais. C'était un sentiment d'une très grande fraîcheur, en fait. Je pense que j'étais vraiment à la recherche d'un lien plus simple, plus évident, comme on peut en avoir dans notre petite enfance. Et finalement, quand on commence à grandir et on est de plus en plus dans le mental et dans la représentation de soi, pour moi, j'ai assez vite oublié ce rapport direct à l'autre.
Est-ce que tu as fait des études ? J'ai pas vu cette information sur Internet.
Non. En fait, j'étais partie pour faire des études en biologie marine. Donc, je suis partie dans une université en Californie. Et c'est très particulier parce que j'avais en tête de faire 8 ans d'études, de faire un doctorat et que ça soit en école primaire, au collège ou au lycée, je devais toujours être la première en classe. Voilà. Donc j'étais toujours celle qui était la plus studieuse. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je suis arrivée donc dans cette université et au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir des migraines. Et j'ai commencé à entendre une petite voix dans ma tête qui me disait, mais en fait, ta place n'est pas ici, maintenant. Enfin, c'est pas le bon moment.
Okay.
Et j'ai tout fait pour ignorer cette voix, parce qu'elle m'arrangeait pas du tout. Et donc, j'ai essayé pendant une semaine, mais les migraines ont continué à s'accentuer. Finalement, je me suis dit, je vais retourner à Hawaï. Parce que juste avant d'intégrer cette université, en fait, je commençais à pratiquer l'apnée. Et mon compagnon à cette époque était champion du monde d'apnée en fait. Et il était aussi capitaine et donc on passait beaucoup de temps en mer à rencontrer des globicéphales, des dauphins, des requins. Donc c'était vraiment un univers, c'était l'univers du grand bleu qui s'ouvrait à moi. Et donc j'avais 18 ans et j'avais juste des étoiles dans les yeux. Et tout ce que je souhaitais c'était de passer autant de temps que possible soit sur l'eau ou dans l'eau. Et en arrivant sur le campus californien, je me suis dit, je sais pas trop ce que je fais ici, en fait. Ça me manquait énormément. Et une part de moi avait vraiment envie de m'autoriser à explorer cet univers à travers mon intuition et à travers l'intelligence du cœur. Mais j'avais très peur de ça parce que, justement, j'avais peur du regard des autres et j'avais très envie d'acquérir aussi cette reconnaissance. Aussi parce que j'ai toujours adoré la science, mais c'était de changer de parcours complètement, le parcours universitaire.
Ouais. Et donc à 18 ans, tu sais que tu veux une vie dans l'eau, mais tu ne sais pas encore comment ça va se manifester et quel sera finalement ton avenir. Alors à quoi ressemblent tes journées quand tu as 18 ans, loin des bancs de l'école ?
Bah écoute, en fait, pour retourner à Hawaï, étant donné que j'avais besoin d'un visa,
oui.
La première solution que j'ai trouvée était d'intégrer une école de massage. Alors, c'était un grand saut entre le doctorat et l'école de massage.
Incroyable.
Ouais, c'était incroyable. Mais finalement, je me rends compte que c'était assez cohérent par rapport à ce que j'ai vécu par la suite dans l'océan. C'était cette reconnexion entre avec mon corps. Parce que jusqu'à présent, je vivais beaucoup dans ma tête, dans mon intellect. Et finalement, le massage, bah, évidemment, ça passe par le toucher, l'intelligence des mains, la connexion avec l'autre. Et puis, c'était aussi les... Ouais, durant cette année où j'ai vraiment commencé à me connecter très fort à la communauté de dauphins sauvages à Hawaï. Et donc, à beaucoup danser dans l'eau. Vraiment d'entrer en communication à travers le langage corporel, à travers le mimétisme, et de faire l'expérience de mon corps, en fait, qui se fluidifiait. Et donc, les journées à 18 ans, entre l'école de massage et les séances d'apnée, à bord du bateau, parce que je travaillais sur un bateau d'écotourisme également. Et finalement, à 21 ans, on a monté cette petite compagnie avec mon compagnon, et une compagnie d'écotourisme pour emmener, c'était soit des visiteurs, donc des touristes, ou des scientifiques ou des artistes à la rencontre des cétacés.
Et c'est, il me semble que c'est pendant ces expéditions que l'enjeu écologique prend une place importante dans ta vie. Et tu ressens une certaine forme d'urgence, et tu cites souvent Hugo Verlhomme qui parle de démocratisation de l'océan. Et tu réalises qu'il est temps de rendre à la mer ce qu'elle nous apporte. Comment on lui rend ?
Je pense que c'est déjà un changement d'état d'esprit. Aussi d'entrer dans une nouvelle relation, en fait, avec non seulement l'océan, mais avec la planète en général. Il y a une approche que j'ai découvert il y a quelques années, qui s'appelle l'écologie profonde. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est sortir d'une approche, d'une perspective anthropocentrique pour passer sur quelque chose vraiment plus centré sur le vivant, donc qui ne met pas du tout... J'essaie de trouver les mots en français, j'ai les mots en anglais. Cette vision anthropocentrique sur laquelle notre société finalement moderne s'est construite, c'est, elle pose vraiment les besoins de l'être humain comme finalité. Alors que cette approche qui met plus la biosphère, en fait, au centre de notre réflexion, nous amène vraiment à nous connecter à quelque chose de beaucoup plus large que nous-mêmes, de redéfinir, en fait, le rapport qu'on a au vivant. Pour moi, cette approche est vraiment essentielle dans notre transformation de notre rapport à la mer, finalement, de retrouver ce lien, finalement, d'amour.
Et toi, en fait, au quotidien, comment tu essaies de concilier tout ce qui est visite de l'océan, parce que tu fais des visites auprès du grand public, et environnement ? Comment tu arrives à lier ces deux choses-là ?
Bah écoute, c'est très bien que tu me poses cette question parce que je suis justement dans une grande transition dans ma vie. Je ressens vraiment le besoin de vivre davantage en adéquation avec mes valeurs. Et je réalise que mon quotidien ne reflète pas forcément mes valeurs. Enfin bon, je pense que ce sera toujours difficile d'atteindre la perfection, hein, ça c'est toujours à 100%. Mais étrangement, en fait, tout ce temps que j'ai passé au contact de la mer et des cétacés, et dans la réflexion de après tout ce que j'ai reçu, finalement, c'est un retour à la terre, en fait, le lien vraiment à la terre, à la permaculture. Donc, je suis en train de travailler à l'élaboration d'un centre à Hawaï qui concilierait en fait, le lien à la terre et à la mer, qui pourrait proposer des programmes éducatifs, en fait, et accueillir des personnes locales, des écoles locales, mais aussi, j'espère, hein, si on peut voyager plus librement dans les années qui viennent, des visiteurs du monde entier. Voilà, depuis toute petite, il y a ce terme « école interespèce » qui me trotte en tête, et je ne savais absolument pas comment manifester ça concrètement. Je pense que tout simplement en emmenant les gens à vivre un rapport vraiment direct, une expérience directe, que ça soit voilà, avec une tortue, un récif, un dauphin ou une baleine, et vraiment susciter une émotion. Parce que je pense que l'engagement écologique, en fait, commence vraiment par un sentiment d'amour, en fait. Ça doit passer par une émotion. Et je pense que dès qu'il y a de l'amour, bah, il y a l'envie de sauvegarder ou de s'engager. De replacer la spiritualité et la joie, en fait, dans l'engagement et dans l'activisme et dans les combats écologiques, c'est quelque chose qui me parle énormément, en fait. Parce que je pense que s'il n'y a pas la joie et l'amour... voilà, on est mal parti pour pour tous les combats qu'on a menés maintenant.
Complètement. Ouais. Léna, tu es surtout connue pour ton livre et ton documentaire,
ouais.
L'enfant de l'océan. Donc à 6 mois de grossesse de ta fille, tu plonges à la rencontre des baleines de l'île Maurice qui semblent sentir la présence de ta fille, Naya. Naya qui veut dire dauphin en hawaïen.
Ah, j'ai pas pu m'en empêcher, oui.
Et pendant 4 mois, ton mari, qui est photographe sous-marin et des cinéastes, t'ont filmé sous l'eau jusqu'à ton accouchement. Tu donnes donc naissance à ta fille, mais aussi à ce livre et à ce documentaire, L'enfant de l'océan. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers un tel film ?
Je vais déjà parler du livre plutôt que le film, parce que le film, n'étant pas la réalisatrice du film, c'est très difficile moi d'avoir un regard objectif. D'autant plus que c'est un sujet très personnel, c'est ma grossesse et l'accouchement. Mais plutôt par rapport au parcours, enfin, je pense que même s'il n'y avait pas eu ce projet de film, on aurait souhaité avoir cette même démarche avec mon compagnon. Parce que dès l'instant où j'ai appris que j'étais enceinte, donc le premier élan, c'est d'en parler à ses proches, hein, donc la famille, à ses amis. Et moi, j'ai tout de suite aussi pensé à, entre guillemets, ma famille éloignée. Donc, c'est vraiment les dauphins à Hawaï. Je me suis dit, il faut vraiment que je leur annonce que je suis enceinte. Et donc, l'envie de vivre vraiment ma grossesse auprès de ces êtres qui m'ont accompagnée et qui m'ont vu quelque part grandir et évoluer et qui ont été des enseignants à part entière. Et donc, j'en ai tout de suite parlé à Jean-Marie, donc à mon compagnon, lui disant bah si on en a l'occasion et si on en a les moyens, ce serait chouette de documenter cette grossesse vu qu'il est photographe. Ça ferait des chouettes souvenirs et en plus, étant donné que on sait maintenant que les cétacés, enfin notamment les cétacés qui sont dotés d'un sonar, peuvent reconnaître la présence du fœtus dans le ventre d'une femme enceinte, étant donné qu'ils ont cette formidable machine à échographier, hein, qui est leur sonar, je me suis dit, bah, ce serait extraordinaire de juste célébrer la grossesse à leur côté. Et donc, il a dit, oui, c'est génial, laisse-moi en parler à mon éditeur et peut-être qu'il sera partant pour en faire un livre et ça nous permettra de peut-être voyager davantage. L'éditeur, donc un grand merci à lui, hein, donc a été touché par l'histoire. Et donc, a décidé d'en faire un livre. Et nous, ce qu'on voulait vraiment transmettre à notre fille, donc après, je sais pas, voilà, elle garde pas souvenir hein, de ces moments qu'elle a vécu in utero, mais peut-être qu'elle en garde un souvenir, en tout cas cellulaire, mais c'était vraiment nourrir ce lien à la nature dès sa conception, finalement. Parce que j'ai vu à quel point cela m'avait manqué en grandissant à Paris. Et je m'en suis rendu compte qu'en arrivant à Hawaï, en fait, quand j'étais finalement projetée dans ces espaces infinis, quoi, que ce soit sur Terre ou dans la mer, de me dire « Waouh !» En fait, il y a quelque chose de tellement plus grand que moi et en même temps qui me relie à... cette part infinie qui est à l'intérieur de nous aussi, quoi, et qui nous nourrit.
On arrive aux petites questions de la fin, Léna. J'aimerais savoir quelle est ta notion du temps quand tu es dans l'océan.
C'est un temps, j'appelle ça le temps éternité. En fait, c'est un temps qui ne s'inscrit pas dans le temps. L'océan, c'est pour moi, c'est vraiment l'image de la matrice universelle, en fait, hein, se dire que la vie sur Terre est née dans l'océan, donc il y a quelque chose de très archaïque, en fait, qui s'éveille en nous, mais aussi quelque chose de l'ordre du souvenir. Donc oui, il y a le temps qui s'arrête, et je pense que je le perçois en tant que tel, parce que finalement, je laisse mon mental sur les rives, sur la plage, et je me connecte vraiment à moi-même, à l'environnement, en fait, que ça soit l'océan ou vraiment quelque chose de plus grand.
Qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui à la Léna quand elle avait 14 ans et qu'elle avait très peu confiance en elle, qu'elle était dans sa dépression, qu'elle cherchait des réponses à ses questions?
Je pense exactement la même chose que m'a dit mon amie. Dire, en fait, tu t'inquiète pas, tu es un être de joie. Et ça ne changera jamais, en fait. Nous sommes des êtres de joie et qu'on est né en fait, dans une période extraordinaire, finalement. Notre génération et la tienne. Et que c'est un challenge, mais aussi une chance inouïe d'être né à cette époque où, en fait, l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète va se jouer dans les 50 ans à venir, à peu près, plus ou moins. Et que c'est à nous, chacun, de participer au mieux-être. Voilà, à une transition qui soit porteuse de joie. Ouais.
Et le bonheur, c'est quoi pour toi ?
Le bonheur, finalement, je pense que c'est dans le regard qu'on porte sur le monde. C'est le fait de pouvoir puiser dans cette capacité d'émerveillement pour que ce soit pour les petites ou les grandes choses. Le bonheur, ouais, la notion de bonheur en fait a aussi beaucoup changé depuis que j'ai des enfants. La chance de pouvoir respirer un air pur, de boire une eau pure, d'être entourée d'une nature souveraine, des choses que je prenais pour acquis et finalement je me dis que c'est extrêmement précieux. Et aussi le lien avec les êtres qu'on aime, qu'ils soient humains ou non humains. Ouais, pour moi c'est ça le bonheur.
Génial. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, ce serait quoi ? Est-ce que ça serait le même conseil que tu donnerais à Léna ?
À Léna, suis ce qui te met en joie. Ouais, probablement. D'avoir confiance complètement, de ne pas se poser des limites, d'oser rêver grand, aussi d'oser être vulnérable. Ça peut paraître bizarre, mais la vulnérabilité, c'est pas forcément la fragilité ou la faiblesse. C'est, je pense, être oser soi, oser être soi, même quand on a peur. Ouais, de trouver la force dans sa vulnérabilité, en fait. C'est vraiment ce que m'ont appris les dauphins, les baleines et les requins. De se mettre complètement à nu dans un milieu qui n'est pas le mien, en fait. Et presque de s'offrir à l'autre, en fait. Être complètement présent à l'autre et de ne pas avoir peur.
Merci beaucoup, Léna.
Ouais. Merci à toi, Victoria.
Ta voix est toute douce, toute apaisante et elle calme. Elle calme beaucoup. Tu emportes avec tes paroles.
J'espère que ça... J'ai l'impression que je vais endormir les gens avec ma voix. Mais...
Non, mais c'est très bien à écouter avant de dormir, par contre, c'est vrai.
En tout cas, merci.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.